Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h,
le meilleur de Tim Dugas.
Bonsoir à tous, c'est parti. Pendant 2 heures, on va se remémorer les moments marquants de la semaine de Tim Dugas. On est en direct entre 18h et 20h, du lundi au jeudi, avec Christophe Dugarry et toute la Dream Team. Même sans match en France, on vous accompagne pour 2 heures de foot tous les soirs. Pendant ces 2 heures, on revient sur des moments historiques du football français, et celui-là en est un. Issue dramatique à Séville en 1982, France RFA, demi-finale de Coupe du Monde, terrible pour tous les supporters français. On va se remettre dans le contexte de cette époque après les infos de 19h. D'ici là, journal moyen et l'actu, Mbaye Niang et l'OM, c'est loin d'être fait, nos infos dans la semaine. Et puis la Ligue 1 affaiblit-elle le PSG? Le débat avec Christophe Dugarry et Eric Dimeco. Mais on va commencer donc par un serpent de mer dans Team Dugas. La Ligue 1 affaiblit-elle le PSG? Appelez-nous au 32-16 pour en débattre. On se pose la question à cause de 2 déclarations qu'on a pu lire ces derniers jours. Javier Pastore, tout d'abord, l'ancien joueur du PSG, qui a déclaré « En Ligue 1, les matchs sont pliés en première période et vous ne continuez pas sur le même rythme pendant 90 minutes. C'est pourtant ce que réclame la Ligue des Champions. En France, tu peux passer un mois entier à jouer des équipes qui t'affaiblissent. » Autre déclaration, hier, celle de Luka Modric, le Ballon d'Or, concernant Kylian Mbappé. Il dit « Il doit rejoindre un championnat où il ne gagne pas les matchs aussi facilement. » Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que, Dugas, la Ligue 1 affaiblit-elle le PSG?
Non, mais je sincèrement, je ne le comprends pas. Et alors, à la rigueur, je veux bien entendre, parce que peut-être que ceux qui le disent ont peut-être raison, mais j'essaie d'entendre et d'écouter les arguments, mais malheureusement, j'en vois pas beaucoup à chaque fois. Il y a souvent d'autres équipes dans d'autres championnats qui ont dominé assez facilement leur compétition nationale et qui ont été loin en Ligue des Champions. Je rappelle que le Paris Saint-Germain a dû batailler sous l'ère Qatari 2 fois pour gagner le titre, et ils ne l'ont pas gagné. C'était face à Montpellier, quand Montpellier a été champion, et Monaco, c'est pas pour ça qu'ils ont été plus loin en Ligue des Champions. Donc voilà, je trouve que c'est trop facile de taper sur la Ligue 1, même si je suis le premier à le faire sur sa qualité de jeu. C'est un championnat qui n'est pas spectaculaire, mais qui est parfois difficile. Beaucoup d'étrangers, de joueurs étrangers sont venus s'y casser les dents et ont été surpris de la difficulté de ce championnat à s'exprimer, à développer du jeu. Un championnat très très physique, très rude. Alors c'est vrai que parfois les matchs pour le Paris Saint-Germain sont faciles, mais vu l'armada qu'ils ont, le contraire serait étonnant. Aucune équipe de Ligue 1 ne pourrait rivaliser, bien évidemment, avec le Paris Saint-Germain. Donc je trouve que c'est un petit peu facile, et c'est aussi facilement dédouaner les joueurs qui n'ont pas réussi, à au moins aller en quart de finale.
Oui, c'est une excuse facile.
L'excuse elle est facile parce que justement, quand t'as affaire à un championnat où il y a une forte inégalité, et ben c'est à toi de mettre un petit peu plus de d'intensité dans les matchs, de pas te contenter de mener 2-0 au score et de vouloir en mettre peut-être un 4e, un 5e, un 6e quand c'est possible. Voilà, c'est un travail mental qui est à effectuer tous les jours à l'entraînement, qui est certes pas facile, c'est vrai, mais c'est le travail au quotidien du staff, des joueurs, et je pense que c'est trop facile de se servir de ça comme excuse. Et sincèrement, les arguments qui sont à chaque fois déployés, moi, ne me sautent pas aux yeux pour expliquer que si le Paris Saint-Germain n'a jamais fait une demi-finale Ligue des Champions, c'est la faute à la Ligue 1. Je trouve que c'est trop simple comme explication.
Oui, pour aller dans ton sens, avant de donner la parole à Eric, un argument de plus que t'as pas développé, ça a pas empêché le PSG de faire de grands matchs aussi parfois en Ligue des Champions. La victoire contre le Barça aussi, 4-0 à l'aller, c'était dans la même Ligue 1 que celle dans laquelle joue le PSG quand il perd en Ligue des Champions. Eric, qu'en penses-tu, toi? Comment tu te positionnes?
Moi, je pense que ça aide pas. C'est clair que même s'il y a des championnats où il y a des équipes qui dominent peut-être autant que le PSG, j'ai quand même l'impression qu'il y a des matchs un petit peu plus, notamment dans l'intensité, plus disputés qu'en France. Moi, je vais trouver, pour te donner un argument, Dugas, puisque tu en demandes.
Vas-y, Eric.
Tu sais, l'âge d'or de la France dans les Coupes d'Europe, c'est les années 90, celles qu'on a connues. Tu regardes.
Monaco. Alors qu'un avion décolle à côté de l'Andoum.
Ah, ça, c'est pas moi. Hein.
C'est mon avion privé, excuse-moi. J'ai prêté un copain qui part faire la fête à Saint-Tropez, donc je lui dis tu peux y aller, il me le rendra demain.
Que si je me souviens bien.
Ça s'appelle Franck Leboeuf.
De tête vite fait, Monaco doit faire quatre demi-finales de Coupe d'Europe pendant les années 90, une finale. Ouais. Bordeaux, vous faites quoi? Vous faites finale.
À Bordeaux, c'est plus les années 80. Mais il y a la finale de 96.
Oui, voilà, il y a la finale quand même.
Oui, bien sûr.
Je pense ces années-là qui sont quand même l'âge d'or du football français, puisque Paris doit faire trois demi-finales, quatre. Deux finales avec une victoire.
Il y a quatre demi de suite au moins du PSG. Oui.
Voilà, donc preuve que à l'époque le football français était au très haut niveau européen. Ces équipes-là se jouaient toute l'année en championnat et je reste persuadé, puisque c'était des équipes fortes, il n'y avait pas encore l'arrêt Bosman notamment avant 96, et donc les internationaux étaient à Bordeaux, à Paris, à Monaco, à Marseille, de partout, à Auxerre aussi, puisque même Auxerre faisait des campagnes, Nantes aussi bien sûr, voilà, j'essaie d'oublier personne.
Donc, mais tu veux dire que c'est là où le championnat était le plus fort,
bien
qu'on
sûr,
est allé le plus loin en Coupe d'Europe.
Bien sûr, c'est quand toutes tes internationaux étaient en France et que ton championnat était disputé,
C'est pas forcément dans ce sens-là qu'est la réflexion. Évidemment, si le championnat est fort, t'as plus de chances d'aller loin en Ligue des Champions. Mais est-ce que si le championnat est faible, c'est rédhibitoire en Ligue des Champions?
Surtout vu le niveau du Paris Saint-Germain aujourd'hui, Eric. Alors, tu parles des années 90. Le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, je pense, battrait les équipes de ces années 90. Elles étaient certainement.
Ah, non, je suis pas d'accord.
Non, tu crois pas?
Moi, je suis même pas sûr qu'ils battent le PSG génération Ricardo, Ginola et toute la compagnie. Ah, je suis pas sûr. Moi, je pense que mentalement et physiquement, je pense qu'ils se seraient fait grave bouger. On en a parlé l'autre jour dans le Moscato Show.
Il y a les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui au Paris Saint-Germain. À l'époque, au Paris Saint-Germain, il y avait d'excellents joueurs, bons joueurs. Les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Il y en a un paquet quand même. Thiago Silva, il fait partie des meilleurs défenseurs du monde.
Ricardo non plus. Non, à l'époque.
T'as un gardien qui a gagné trois fois la Ligue des Champions. T'as Neymar, t'as Mbappé, t'as Cavani, t'as quand même des joueurs. T'as Di Maria, t'as quand même des joueurs de très très haut niveau. Enfin,
la seule question, c'est s'il y a un duel Mbappé Dimeco.
Je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave. C'est pas le débat. Après, là où tu as raison, c'est que. Même si ton championnat s'est affaibli et même si tu domines ce championnat, il faut être capable. Et c'est là justement où je ne suis pas d'accord avec toi sur là quand tu dis les mecs qui sont forts. Mais non, mais les mecs qui sont forts, tu les vois quand ils font le job toutes les semaines, que ce soit facile ou moins. Et moi, je trouve que mentalement, c'est là où peut-être il y a un gros problème. Quand tu domines comme ça, tu dois être capable d'aller chercher 90 minutes à fond pour justement te préparer pour les matchs de Ligue des Champions. Et c'est pour ça que moi, j'aurais été
capable de le faire sur certains matchs. Donc c'est trop facile de dire parce que trois jours après, mais sur certains matchs de Ligue des Champions, ils ont été capables de mettre cette intensité-là. Après, ils sont pas capables de la reproduire, mais c'est leur faute, au contraire, à la rigueur, j'ai envie de dire, ils sont même un peu plus frais. Ils gardent la fraîcheur parce qu'ils sont pas toujours en train de batailler tous les trois jours. Ils arrivent à garder un peu de fraîcheur.
La réalité des dernières années, c'est même pas un an, c'est même pas deux ans. C'est bientôt combien maintenant 8 ans.
8, ouais.
C'est-à-dire 8 ans. Qui domine, alors même tu vas me dire une année se sont fait accrocher et tout. Deux. Il n'empêche que sur le championnat.
Deux avec Montpellier
et Monaco. Oui. Mais il n'empêche que en 8 ans, quand tu ne sors pas des quarts de finale une seule fois en étant soi-disant aussi fort et en dominant autant ton championnat, ça veut dire que il y a un problème récurrent au niveau de ta compétition nationale.
Ou de ta préparation, Eric. Ou peut-être de leur préparation,
Tu as dit qu'ils étaient plus forts que ma chaîne. Donc,
c'est que mentalement, ils n'en mettent pas assez. C'est que dans leur préparation mentale, physique, peut-être, ils n'en font pas assez.
Et est-ce que, un week-end sur deux minimum, il faut que tu ailles puiser pour aller gagner des matchs contre des équipes qui sont aussi fortes que toi. Est-ce que c'est pas là que tu travailles physiquement 90 minutes au lieu de faire 60 minutes et que mentalement tu travailles ton mental? Est-ce que c'est pas là? Est-ce que c'est pas dans l'adversité que tu le travailles ça?
C'est à eux de s'imposer une adversité, c'est à eux de travailler sur leur mental, c'est quand ils gagnent 2-0, 3-0 sur un match qui, c'est vrai, est facile, et bien essayer de continuer pour en mettre peut-être 6, pour en mettre 7. Après, il y a un travail mental à faire, je dis pas que c'est facile, c'est vrai que ça serait peut-être plus facile que toutes les semaines, une fois par semaine, jouer un gros match. C'est vrai, mais tu peux pas te cacher, à mon avis, derrière ça, ça peut être une part de l'explication, mais ça peut pas, c'est trop facile de dire que c'est que ça.
J'ai pas l'impression que les interviews et que le débat, c'est ça, c'est pas que ça. Mais moi, pour moi, moi, c'est une des explications de ce qui se passe depuis 8 ans. C'est même une des explications majeures pour moi. Il y a d'autres raisons sur la mentalité des joueurs. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord sur quand tu dis cette équipe-là. Je compare le même club avec des générations différentes, hein, c'est-à-dire Paris 90, avec les Ginola, les Ouéa, les Valdo, les Ricardo, les Roche, les Lama, les Bravo, les Guérin, tout ça. Des garçons que tu as connus, puisque tu as joué en équipe de France avec eux. Moi, je pense que mentalement, c'était plus fort. Et je pense que si ça joue aujourd'hui contre, je pense que ça se fait bouger, mais grave. Voilà, parce que tu m'enlèveras pas de l'esprit que ça se cultive, cette mentalité d'aller toujours chercher à écraser l'adversaire. Ça se cultive, mais c'est quand même une qualité. Ça se cultive avec un championnat qui est fort, mais c'est une qualité que tu as quand même au départ. C'est-à-dire que si tu es un tendron, eh ben, tu resteras un tendron. Tu vois, voilà, je passe.
Très bien. Du gars, t'as pas été 100% convaincu, mais bon.
Non, mais c'est on est d'accord sur le fond, on est d'accord. C'est une raison. Moi, là où je suis moins d'accord avec Eric, c'est que c'est une des raisons essentielles pour lui. Pour moi, c'est une raison qui est secondaire. Voilà, c'est pas la raison essentielle. Si j'avais un peu plus de professionnalisme, un peu de concentration, un peu moins d'anniversaire, un peu moins de carnaval, un peu moins de.
Oui, mais est-ce que c'est pas parce que c'est facile aussi qu'il faut tout ça?
Peut-être.
Ben oui, mais ouais.
Et il y a un autre truc qu'il leur faudrait peut-être du gars, c'est avoir conscience que ces résultats en Ligue 1 n'ont pas de valeur. Tu vois, parfois on a l'impression, Thomas Tuchel le premier, on l'entend dire, vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire, c'est exceptionnel, c'est pas facile de gagner les matchs en Ligue 1, etc. Peut-être aussi que les joueurs ils entendent ça, ils se disent, bah attendez, vous avez vu comment on se balade en Ligue 1, ça va faire pareil en Ligue des Champions. Alors que s'ils avaient conscience qu'il n'y avait pas beaucoup de valeur à ces performances en Ligue 1, ils se seraient peut-être moins surpris en Ligue des Champions.
Tu te racontes que,
il y a une année, quand ils viennent, l'année où ils viennent au stade Vélodrome et que Cavani égale sur la fin, un match où il passe à côté au niveau de l'état d'esprit, que les mecs t'expliquent à la fin du match que bon, bah, c'était un match comme les autres pour eux.
Oui, Mbappé avait dit ça, notamment.
Non, pas que. Si lui le dit, c'est que c'est cinéma, le vestiaire. Tu vois, c'est si ça, c'est pas un signe de la mentalité de qu'il y a dans le vestiaire et dans la mentalité des joueurs qui composent cette équipe-là. C'est quand même, tu vois.
Moi, le seul truc qui m'inquiète, c'est que plus j'écoute Tim Dugas, plus je suis d'accord avec Dimeco. Alors, c'est pas forcément bon signe. Hein. Je pense que je suis fatigué.
J'allais embrayer Julien en disant, je regrette de vous dire que ce que disait Eric tout à l'heure était proche de la réalité absolue.
Oui, alors après, c'était pas un débat de fond, notre réflexion à l'instant sur Eric. C'est juste qu'il était très agressif.
Non, mais j'ai entendu Christophe et nier l'importance de l'adversité quand tu fais de la compétition. Je suis content de l'apprendre parce que comme j'ai des tournois de tennis fin juin, je vais pouvoir continuer à m'entraîner avec mon fils, comme ça je serai prêt.
Ouais,
je vais m'entraîner avec lui parce que l'adversité n'est pas importante finalement.
Ça n'est pas qu'il t'appelle mon fils. Hein.
Ouais.
Juste pour ceux qui n'ont pas suivi, le débat c'était à 18h, la Ligue 1
l'adversité n'est pas étonnant et pas important.
Je rappelle le débat. La Ligue 1 affaiblit-elle le PSG?
Mais on n'a jamais dit que ce n'était pas important, Daniel. On a dit que ce n'était pas, j'ai dit, pardon, qu'à mon avis, ce n'était pas le plus important et que c'était une excuse facile. Voilà.
Ce n'était pas rédhibitoire, que ça n'empêchait pas de gagner les champions.
Exactement.
Mais je crois qu'Eric a précisé que c'était un élément, et je dis la même chose depuis des années, c'est un élément. Et je
au début, il commence toujours comme ça, et puis après, il te saute à la gorge, et il arrive, l'auditeur, il saute à la gorge aussi. Et puis,
c'est un élément de plus en plus important. Mais l'adversité, c'est.
Pourquoi c'est de plus en plus important?
Mais c'est parce que la compétitivité d'un championnat, c'est.
Et il y a 4 ans, c'était pas le cas.
Oui, bien sûr.
Ouais. Le problème, c'est que la Ligue 1 s'affaisse d'année en année. Vous êtes au courant, vous suivez l'actualité. Les joueurs.
Ça fait 10 ans qu'elle est nulle.
Le niveau ne fait que baisser d'année après année, puisqu'il y a de plus en plus de joueurs qui partent. On en est à faire jouer des mecs qui n'auraient même pas eu le niveau Ligue 2 il y a 20 ans en Ligue 1. Ouais,
c'est vrai que quand j'ai regardé le match retour du Barça, regardé le match contre Manchester, que j'ai regardé Lo Celso en 6, c'est vrai que tout ça c'était la cause de l'élimination.
De la Ligue 1. Hein. Mais c'est fou, Toulouse et Amiens, c'est leur faute. Tout est leur faute.
Mais pour toi, coach, c'est les entraîneurs aussi qui ont leur part de responsabilité.
Ouais, évidemment, dans ce qu'on a vu, il y a l'arbitrage dans les matchs retour, mais c'est, je dirais, une habitude. Quand on est le Barça, on sait très bien que dans un match retour, on va être avantagé. On le voit depuis des années. Mais quand je regarde les éliminations de Paris Saint-Germain, sincèrement, je pense que
c'est pas la faute au rythme, c'est la faute à l'arbitrage, à l'entraîneur.
De notre Ligue 1, on peut le mettre après beaucoup de choses.
Bah oui, je suis d'accord.
Voilà. Et ben, vous n'êtes pas d'accord avec Daniel et Eric.
Non, je dis ça dépend du classement qu'ils font, de l'ordre de l'importance. Mais dire que ça n'a pas d'importance, c'est impossible parce que
ça tombe très bien parce que personne n'a dit ça.
Sinon, ça veut dire que la compétitivité n'est pas importante. Et un championnat, la compétitivité, c'est ce qui fait aussi que nos résultats en Coupe d'Europe sont catastrophiques depuis plus de 20 ans maintenant. Mmh. Hein, il suffit de regarder les chiffres.
Mais ça,
les
personne n'a dit que la Ligue 1 était un championnat relevé non plus.
Bah, donc forcément ça a une incidence.
Il y en a qui disent que ça fait partie des 5 plus gros.
Oui.
Bah, on s'est inventé. Ouais. Le problème c'est qu'on s'est inventé un classement à 5 pour pouvoir se mettre dedans.
Ouais, c'est ça.
Oui, ah bah nous si on était 6e, on dirait qu'on est dans le top 6, les meilleurs.
Exactement.
On est dans le top 6 des meilleurs.
Oui, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette position au top 5, c'est encore, ce sont les chiffres qui le disent. Cette position, elle n'est due qu'aux victoires du PSG dans les matchs de poule de Ligue des Champions et au peu qu'elle fait en Ligue des Champions. Si tu enlèves le PSG, déjà tu redégringoles à la 6e place. Si tu enlèves Lyon, bon alors là t'es carrément dans les oubliettes absolues.
Ah bah oui, mais si tu comptes que sur Amiens et Toulouse, effectivement que t'es derrière l'Albanie.
Non, mais il y a pas que deux équipes qui font les points en Coupe d'Europe. Ton indice UEFA ne tient qu'à la présence, qu'à ce que fait le PSG, et dans un second temps.
Oh, l'OM, respecte l'OM qui a été en finale de Coupe d'Europe.
Si t'enlèves le Bayern et Dortmund en Allemagne, je sais pas ce qui reste non plus.
Eh ben, fais les comptes des points, regarde les classements UEFA, c'est tout con à faire. Hein.
D'accord,
faites les calculs. Est-ce que l'OM, ils ont fait finale il y a deux ans, c'est très bien, mais l'OM aujourd'hui, regardez leur position au classement UEFA et l'indice, et vous verrez que
non, ça me fait trop peine.
Mais tu sais que je trouve ça assez exceptionnel, Daniel. C'est-à-dire que t'as été le premier à être dur avec le Paris Saint-Germain parce qu'ils le méritaient quand ils se sont fait éliminer.
Mais bien sûr, je le suis.
Non, mais là, de sortir des excuses comme ça à Verratti, à Thiago Silva. Pastore, tu rencontres que Pastore, le mec, il a fait deux matchs en 5 ans et il te sort
rien,
ça comme excuse. Mais
si,
ne mets pas ça devant, c'est trop facile, Daniel. Ne leur mets pas ça au visage, ils vont s'en servir, c'est trop facile. Surtout, ne fais pas cette erreur de donner cette arme aux joueurs.
Alors, Christophe, le problème, c'est qu'il y a un truc que tu n'as pas compris, c'est que les joueurs sont justement dans la négation. Alors là, justement, je ne vais pas du tout dans leur sens. D'abord, je ne leur ai jamais rien excusé, et tu le sais. Mais alors, détrompe-toi, parce que les joueurs, eux, sont dans la négation de cet élément-là. Si tu parles, justement,
d'ailleurs,
eux nient, parce que si tu dévalues la valeur du championnat, c'est comme si tu dévaluais leur titre. Et eux, ils sont tellement dans leur quotidien.
Les joueurs et Tourelle aussi. Tourelle est là-dedans aussi.
Absolument. Mmh. Eux, ils ne veulent pas entendre parler justement de cet argument. Donc en fait, ça n'est pas une excuse.
Ils partent tous, c'est ce qu'ils font.
C'est bien leur faux curie. C'est bien l'hypocrisie générale, Christophe, qu'il faut dénoncer. C'est que quand ils s'en vont, ils disent la Ligue 1, c'était de la merde. Mais quand ils y sont, pour ne pas dévaluer leur titre, là, ils disent c'est formidable, machin. Il faut entendre tous les discours. C'est beaucoup plus nuancé. Et moi, justement, je ne le fais pas comme une excuse et je ne le mets pas en numéro un du classement. Évidemment que quand tu regardes les matchs, je suis pas con, Roland, quand tu parles Barça, c'est pas l'élément numéro un, bien sûr que non, c'est pas l'élément numéro un, loin de là, mais il faut tout expliquer, il faut donner un panorama complet de notre football pour tout comprendre de nos défaillances.
Au moins Neymar, il a une qualité, il dit que c'est de la merde depuis le début, et à tout le monde. Tu vois, moi je respecte ça, oui, c'est un mec qui est honnête.
Alors, il faut tout analyser.
On va en rester là sur le débat.
Quand Tanguy Kouassi, il dit que c'est de la merde, il s'en va.
Ah non, alors Tanguy Kouassi, il voulait de la stabilité.
Ah ouais,
c'est pas pareil. Il reste en Ligue 1 puisqu'il va aller à Rennes. Il reste en Ligue 1.
Il va au Bayern. C'est au Bayern. L'info qu'on a sorti il y a une heure là, avec Loïc Tanzi, il va au Bayern.
Il est plus sûr d'être titulaire au Bayern.
Donc il va au Bayern parce qu'il reprochait au PSG.
Oui, la stabilité.
L'éventuel temps de jeu et tout. Et il va là-bas.
C'est pas le temps de jeu, Daniel, c'est la stabilité, les infos de Loïc Tanzi.
Parce que Loïc m'avait dit il y a deux jours que dans les arguments, c'était pas la stabilité, venait après le temps de jeu et après le projet. Enfin bon, bref.
Ah bah hier, il nous a expliqué.
Il m'a dit le climat comptait aussi. Le climat important.
Et la nourriture.
Un trop instable, le climat. Un coup, il fait pas beau. Un coup, il fait beau. Moi, hier, il fait pas beau.
C'est ça.
C'est stable.
Alors. Non, mais tu vois, alors, pour résumer, si par exemple, on donne le niveau du championnat français en cinquième position, ok. Mais de la façon dont a été éliminé le Paris Saint-Germain 3-4 fois, je pense qu'il faut chercher autre chose que cette explication.
Ah, mais évidemment, il y en a tellement d'autres, on en a parlé mille fois, Roland, on est d'accord, évidemment. Évidemment qu'il y a
un élément,
les matchs, il y a tout ça, bien sûr.
Il y a un élément qui s'en va.
Le match retour, je pense que l'exemple numéro 1 pour moi, par contre, c'est Manchester. Là, sincèrement, surtout ne parlons pas du niveau de notre championnat quand tu gagnes 2-0 en faisant un super match à l'extérieur et que tu perds chez toi contre
mais attention,
l'équipe,
Roland,
l'équipe B de l'équipe B de Manchester.
Non, on est d'accord là-dessus, mais sur d'autres matchs, attention Roland, quand tu n'es pas habitué, quand tu ne défends jamais, quand tu n'es jamais réellement bousculé, même quand tu as pris un avantage dans un match aller, dans le match retour, si tu es un peu bousculé, si tu es confronté à des situations que tu n'affrontes jamais, à savoir le stress, la pression, l'équipe en face de toi qui a vraiment envie de te marcher dessus, tu sais plus comment faire.
Quand tu, le PSG, ce qu'on Daniel, a dit, c'est des internationaux, Daniel, ils jouent des matchs de ligue de
Il les joue pas, Christophe. Il les joue pas les matchs dont tu parles.
Non, mais tu peux pas dire ça, Daniel.
Cite-moi les joueurs qui les jouent.
Dire ça. Ils sont pas habitués au stress. Tu entends ce que tu dis,
non.
Daniel. Ils sont pas habitués au stress. Ils sont pas habitués à ça. Ils sont pas habitués à ça. Daniel,
cite-moi les mecs. Christophe, Daniel, cite-moi les mecs. Tu veux qu'on fasse l'équipe dans l'ordre? Est-ce que tu veux qu'on fasse l'équipe dans l'ordre? Est-ce que Thiago Silva?
Non, mais on n'est pas d'accord, Daniel. On sera trop loin du championnat.
Mais c'est pas qu'on n'est pas d'accord.
S'il vous plaît, pas tous en même temps.
Daniel, le championnat que tu connais très très bien. En Italie. Tu penses que la Juve, sauf les dernières années, qui se balade comme le Paris Saint-Germain se balade, il y a un problème pour eux de niveau de.
Oui, on peut citer le Bayern aussi. Hein,
Quand ils jouent Naples, quand ils jouent la Lazio, il n'y a pas d'équivalent chez nous, hein, je crois.
Ouais, il n'y a pas d'équivalent, Roland. Déjà, ça, c'est la première
réponse. Quand ils les ont eu, ils ont perdu. C'était Monaco, c'était Montpellier. Ils n'ont pas gagné.
Déjà, il y a des équipes en Italie qui sont supérieures. À ce qu'on a en Ligue 1. Et ensuite, je te signale qu'en Italie, ça a effectivement été un sujet, Roland, puisque tu dis que je connais ce championnat, et que la Juve, et oui, ça a été abordé, le fait que la compétitivité de la Serie A était également en baisse, parce qu'elle est en baisse sur ces dernières années, et qu'ils se baladaient trop facilement. Ouais.
Ouais, mais bon, ils vont en finale, ils vont en demi-finale.
Oui, mais le football en Italie, c'est pas le même. Les équipes sur le terrain, elles jouent pas comme en Ligue 1. Elles jouent pas toutes derrière, recroquevillées à t'attendre. Non, c'est ouais. Et le niveau des joueurs, il a rien à voir non plus. Après, moi, je veux bien qu'on n'ouvre pas les yeux sur notre niveau, mais après, les chiffres sont là et le montrent hein, quand même. Hein. Et au moins les chiffres ça se discute pas trop quoi.
On le fait le constat sur le niveau, Daniel, on le fait le constat, on le partage, mais je trouve qu'on brandit trop facilement ce truc du défaut de la Ligue 1. C'est pas un avantage, ça c'est certain, on est tous d'accord que ça serait un peu mieux de temps en temps d'avoir une petite piqûre de rappel voilà sur les joueurs, mais après est-ce que le coach est pas capable de le faire, est-ce que un coach mental est pas capable de le faire, est-ce que une préparation différente.
Christophe, c'est quoi les plus belles années de notre football au niveau des clubs?
Oui, je m'en fiche de ça.
Bonne période dans l'histoire. Bah, pourquoi tu t'en fiches?
Parce que je m'en fiche de ça. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, voilà, le Paris Saint-Germain, ils ont des joueurs de top niveau mondial. Ils sont pas capables de se bouger un petit peu le cul quand c'est des matchs importants. Et après,
ça,
quand ils partent,
je ne conteste pas ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais je veux pas. Je n'écarte aucun dossier. Mais
ils ont des mecs qui ont gagné la Ligue des Champions. Ils ont des mecs qui ont gagné la Coupe du Monde. Bon.
Mais ils ont qui? Mais ils ont un mec qui a gagné la Ligue des Champions. Ils ont Di Maria.
Ben, Mbappé,
et Neymar qui vient d'arriver.
Navas, il a gagné la Ligue.
Navas, c'est très bien.
Alors, on cherche pas d'excuses, c'est bon.
Mais ils ont gagné avec Barcelone, Neymar. Tu es au courant que.
Non, mais.
Tu t'énerves alors qu'ils sont.
Mais
Navas, il n'y a rien à voir, il est qualifié.
Oui, mais moi je dis que ça ne peut pas être un hasard. Pourquoi que la seule décennie oui, où nos clubs ont présenté un beau visage en Coupe d'Europe, c'est la décennie où notre championnat était le plus relevé, où il y avait des équipes et un championnat de qualité. Je dis que ça ne peut pas être un hasard.
Vu les éliminations du Paris Saint-Germain ces dernières années, sincèrement, dire que c'est une raison importante, je trouve ça assez incroyable.
Voilà, prends-la comme si... tu veux la raison, mais ouais. Tu peux pas nier que c'est une raison importante.
Et moi, je
le
dis un jour
dans lequel sont enfermés les Silva, Verratti, tous ces barons que tu dénonces d'ailleurs. On est d'accord là-dessus. Les baronniers et le confort.
Oui, mais Daniel, tu devrais pouvoir sortir du confort sans parler du niveau de la Ligue 1.
Je réfléchis en même temps, ça m'arrive. Ouais. Liverpool, qui a 25 points d'avance sur le second, eux, ça leur pose aucun problème de jouer
ces matchs-là. Ils sont éliminés cette année, je te rappelle. Hein.
Oui, ils se sont fait sortir.
Voilà. 25 points d'avance. Ils sont... Ah oui, mais rigole pas. L'année où ils ont 25 points d'avance, ils sont éliminés.
Mais justement, c'était pas un piège, mais je vous attendais.
Et c'est
parce que c'est le niveau de la Ligue.
Eh ben parce que tu t'endors au bout d'un moment. Eh ben tu t'endors.
Ah alors les pauvres.
Eh ben voilà. Wow. T'as pris un exemple.
Il faut mettre dans ses clubs, il faut mettre Pascal le grand frère. Il va leur mettre des tartes dans la gueule tous les matins, ça va les réveiller.
Il est pas assez payé.
D'accord.
Bon, okay. Et là-dessus, alors là en revanche sur ce point, je suis d'accord avec toi.
Ah, mettre Daniel peut-être.
Qu'on ait besoin, Christophe, de parler de motivation ou comme tu dis de tartes dans la gueule ou de coups de pied dans le cul. Ça, effectivement, moi je suis d'accord avec toi. Je trouve ça lamentable. Mais le confort, mais toi le premier, combien de fois on a parlé du confort dans lequel les mecs du PSG étaient endormis à cause des dirigeants qui les remuaient pas assez, de la République des joueurs et du fait qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ça rejoint, oui, mais tout se rejoint en fait. Tout se rejoint parce que le confort dans lequel le président les installe avec ses énormes salaires, avec ce confort-là. Après le dimanche, tu n'en sors même pas parce qu'en plus tout le monde te regarde yeux écarquillés. Les mecs ils viennent te demander des maillots à la mi-temps. Tu vois, c'est un tout. Après, mets l'ordre que tu veux, mais c'est un tout très intéressant à analyser.
Et du gars, le problème c'est pas Pascal le grand frère, c'est qu'ils avaient gardé trop longtemps Sylvain la petite sœur. C'est peut-être ça le problème. Fallait virer la petite sœur surtout.
Bon, je te souhaite que l'année prochaine ils gagnent la Ligue des Champions.
L'année prochaine et cette année, au mois d'août.
Oui, mais Thiago Silva va jouer.
Thiago Silva n'est plus titulaire et on est passé à cause de ça.
Et puis ça vaudra rien cette Ligue des Champions, il y a pas d'aller-retour.
Et Christophe,
mais t'es sérieux? On finit premier devant le Real Madrid, en gros. On bat Dortmund. Il y a des gens, ils étaient champions d'Europe en battant avec l'Endoran, et ça match nul contre Glasgow, frère. T'es sérieux ou quoi?
Mais
ça compte pas, nous.
Non, mais on le fera plus tard, ce débat.
Quel salaud, t'es moi un enfant.
Faudrait déjà que Paris gagne pour faire ce débat.
Mais laisse-moi rêver. Pourquoi je prends l'accent? Moi, je m'énerve.
T'as été dans une phase.
Pas bien du tout.
Voilà donc pour ce débat autour de la Ligue 1 et du PSG, sorte de serpent de mer dans Team Duga. On revient dans une seconde avec Mbaye Niang. Malgré ses déclarations, il a envie finalement de rester à Rennes. On fait le point complet sur ce dossier dans une seconde.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Team Duga.
Le meilleur de Team Duga, c'est aussi le meilleur du journal moyen. Ça arrive tout à l'heure à 18h45 avec Adrien Aigouin. Tout de suite, Mbaye Niang à Marseille. On en a parlé quasiment tous les jours cette semaine. Voilà ce qu'on en a dit jeudi, après que Mohamed Bouafsi ait joint l'attaquant du Stade Rennais. Le débat ensuite avec Jérôme Roten et Christophe Dugarry. Mohamed Bouafsi nous rejoint. Bonsoir Mohamed.
Salut Jean-Louis, salut Dugas, salut Captain, salut Jérôme. Salut.
Bonsoir Mohamed.
On va débattre sur la saison prochaine qui se profile pour les Marseillais, mais juste avant, tu as pu joindre Mbaye Niang aujourd'hui, dont on parle énormément de lui.
Je me suis inspiré du gars. Du gars voulait qu'on lui parle directement, donc du gars voulait qu'il arrête de parler. Bah moi je l'ai appelé. Ouais. donc voilà, je peux pas mieux faire.
Ouais. Oui, bah en même temps.
Non mais si c'est pour mettre les points sur les barres sur l'été, allons-y, vas-y moi. Mais
du gars prodigue ses conseils et après les gens les écoutent. Chacun les adapte comme ils veulent.
Ouais, en fait, voilà.
Alors on va l'entendre dans une seconde. Mbaye Niang. On rappelle juste le contexte, Mohamed, de ces derniers jours le concernant.
Ça fait plusieurs semaines qu'on parle de lui en discussion avec l'Olympique de Marseille. Lui a lâché une petite phrase chez nos confrères de Canal Plus en disant qu'il aimerait bien rejoindre l'Olympique de Marseille. Il était en vacances du côté des Bouches-du-Rhône et donc tous les supporters marseillais qui l'ont croisé ont expliqué qu'il leur avait dit qu'il allait rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc il y a beaucoup de rumeurs et il a souhaité prendre la parole afin de clore le débat, j'ai envie de dire.
On l'écoute.
Le Stade Rennais, c'était mon club, que j'ai passé de très belles années là-bas. Donc aujourd'hui, retourner au Stade Rennais, ça serait à aucun moment un échec. Au contraire, je suis un joueur du Stade Rennais, je suis sous contrat et je serais très heureux si jamais je devais rester au Stade Rennais de continuer la saison. Moi, j'ai pas envie de rentrer encore dans toutes ces discussions, voilà, de Marseille par Marseille. La seule chose qui est vraie, c'est qu'aujourd'hui, voilà, Mbaye, il a des agents, voilà, Grégory Gélabert qui s'occupe de ça. Maintenant, j'entends beaucoup de choses, c'est vrai, même sur cette histoire du Qatar. Moi, je suis au courant de rien. Donc, moi, c'est vraiment uniquement penser au football et prendre du plaisir. Et mes agents s'occupent du reste.
Voilà, ça va dans le bon
sens. Parfait.
C'est ce que tu voulais, Duguay.
Les vaches sont bien gardées. Chacun a sa place. Chacun fait son boulot. Et
il parle de lui à la troisième personne.
Oui. Ça, c'est secondaire, Captain.
C'est secondaire. Et c'est pas du tout lui qui a allumé la mèche pour Marseille.
Oui, bah c'est ça, non, ça c'est sûr, Captain, t'as raison.
C'est pas lui, non. Il a dit arrêtons d'en parler, mais.
Oui, bien sûr, c'est lui qui a.
Non, c'est pas lui, non. C'est...
Oui, oui, non, mais là, t'es ironique parce qu'effectivement, ça vient de lui et t'as raison. Mais bah, on sent qu'il a compris les choses quand même, qu'il avait peut-être trop parlé et que maintenant il fallait arrêter
de parler. Lui le dit, voilà. j'ai envie de clore le débat. Je serai à la reprise du Stade Rennais. Je serai à la reprise du Stade Rennais la semaine prochaine. J'ai beaucoup de respect pour ce club. On verra comment ça se termine. Si je reste au Stade Rennais et si je dispute la Champions League ou si je pars. En tout cas, j'ai envie d'arrêter tous ces débats qui portent autour de moi, ces commentaires et surtout, je respecte beaucoup le Stade Rennais. C'est ça, son opinion, sa pensée. Aujourd'hui, il a envie aussi de montrer que les supporters rennais, il ne leur manque pas de respect, qu'il a envie de continuer au moins à garder cette belle image auprès de certains supporters.
Voilà, bah, il a envie de partir, en gros. Il a envie de partir.
Non, mais il dément pas son envie, mais il dit, en gros, en clair. Jérôme, en clair, et ça, c'est plutôt respectueux. Il faut que le Stade Rennais s'y retrouve aussi. S'il s'y retrouve pas.
Sans blague. Non, ils vont te faire un chèque pour que tu partes en plus. Non, mais sans déconner.
Non, mais c'est très bien. Mohamed, ne te fais pas chauffer. C'est très bien. Voilà,
Non, mais bon, on a compris.
Du gars, j'ai appris auprès de toi.
Absolument se barrer. Les agents. Donc lui, il est en fait, il est au courant de rien. Ah ben non, surtout pas. Ben attends, le joueur qui est quand même le premier concerné, surtout pas, il est au courant des discussions que ces agents peuvent avoir. Ah ben non, mais trop de respect pour le Stade Rennais.
Non, là, t'es de mauvaise foi parce qu'il répond sur la question. L'interview est à retrouver sur le site rmcsport.fr. Il répond par exemple sur l'intérêt du Qatar. Il dit, cet intérêt pour moi, il est pas lié à l'Olympique de Marseille. Arrêtons de dire par exemple que l'intérêt du Qatar est sorti pour faire monter la pression. Aujourd'hui, c'est important de le dire à tous les supporters olympiens. Il y a aucune offre de l'OM. L'OM ne peut pas se permettre de se payer Mbaye Niang à 20 millions d'euros. Il n'y a rien, aucune discussion, et qu'on arrête de faire rêver certains pour rien du tout.
Ah oui. Alors, Capitaine, qu'est-ce que tu voulais dire ?
Non, mais simplement qu'il n'est au courant de rien, mais il en parle quand même. Visiblement, il sait que du côté du Qatar. Il sait que du côté du Qatar.
Les deux, là, comment ils sont ?
Ah ouais, non, mais. Il sait que du côté du Qatar, il y a un intérêt. Et du côté de Marseille, c'est vraiment pas lui qui a allumé la première mèche. Non seulement il a allumé la mèche, en plus, il s'est promené. Visiblement, j'étais pas au courant du côté de Marseille, puisqu'il a croisé, selon Mohamed, beaucoup de supporters.
Sa femme est marseillaise, Jean-Michel.
Comment ?
Sa femme est marseillaise.
Alors, c'est normal qu'il soit du côté de Marseille, qu'il a envie d'aller à Marseille, et qu'il ira peut-être à Marseille, mais il n'est au courant de rien.
Non. Il faisait ses footings autour du stade Vélodrome.
T'as vu du gars comment ils sont les deux là ?
Ah, ils sont
magnifiques. T'es gentil à côté.
Hein. Ah, ils sont très bons. Ils sont très très bons.
Bon, voilà pour le cas Mbaye Niang. Mais donc Mohamed, tu nous as bien dit, l'OM ne peut pas mettre autant d'argent sur lui. Ça veut dire qu'on se prépare à un mercato où
va falloir un échange. Avec Mitroglou, peut-être à Rennes, ça peut peut-être les intéresser.
Ah, oui, bien sûr.
C'est vrai qu'il revient. C'est vrai qu'il.
Eh oui. Attends.
Là, pour être bon vendeur quand même. Hein, si t'arrives à faire ça.
Ah ben là il faut un vendeur de bagnole, je te le dis de suite.
Non, mais en fait il y a un bon président. Ah ben,
quelques vendeurs de bagnole qui peut vendre.
Mais surtout ils ont des yeux, Arène.
Ils ont Julien Stéphane comme entraîneur quand même.
Ouais.
Donc il faudra être malin pour l'OM cet été, plus que de cette façon, mais il faudra être malin. Sachant qu'en plus sur la Ligue des Champions, est-ce qu'il faut être vraiment exigeant avec l'OM la saison prochaine ou il faut se préparer à une année compliquée ? Appelez-nous au 32-16 pour en débattre. Duga, comment tu vois les choses ? Tu nous as souvent dit que tu le sentais pas quand même. Hein.
Non, mais comment tu ils ont réussi l'essentiel, ils ont gardé leur coach, voilà, les joueurs sont ravis. Je l'ai dit, c'est quand même important de te dire que les joueurs qui vont reprendre l'entraînement, ils sont contents d'aller à l'entraînement. C'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Tu vas me dire, c'est normal. Mais bon, par les temps qui courent, vu ce qui s'est passé, les annonces, les embrouilles qu'il y a eu ces derniers mois à Marseille, les choses qui ont bien fonctionné, c'est le terrain, c'est l'état d'esprit. Voilà, ça l'a fait l'année dernière. Est une bonne saison. Enfin, cette année, pardon, ou l'année dernière, je sais pas comment on dit, est une bonne saison pour l'OM. Ils vont pouvoir capitaliser là-dessus, éventuellement. Continuer à progresser. Pardon, excuse-moi, ils connaissent parfaitement ce coach. Oui, il va falloir être malin, il va falloir essayer de se renforcer.
Et comment ?
Comment ? Avec des prêts, il va falloir être malin. C'est là que Aldridge va certainement être aussi important. Est-ce qu'il y a un nouveau directeur sportif qui va arriver d'ici là, qui va avoir le bras long, qui aura des contacts et qui va peut-être avoir une ou deux touches, un ou deux joueurs, bons joueurs à se faire prêter ? C'est possible aussi. Voilà, il va falloir être malin. Mais c'est jouable, c'est faisable. Il y a une ossature. Voilà, je suis pas spécialement inquiet. Je m'attends pas à grand chose. On verra bien. Arrêtons de faire des plans sur la comète, notamment en Ligue des Champions. On sait pas ce qui va se passer. Bien évidemment que Marseille
c'est quand même là qu'on les attend.
Pas vraiment. Tu crois sincèrement
Non, pas qu'on les attend. Ils vont pas gagner. Ils sont pas favoris. mais on attend quand même un autre comportement que celui qu'ils ont eu lors de leur dernière campagne en Ligue des Champions.
Est-ce qu'ils en ont les moyens, capitaine?
Je ne pense pas, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va être une saison compliquée. J'ai été quand même très surpris du revirement d'opinion, de situation, d'avis de Villas-Boas, même si les joueurs voulaient de lui. Lui, il n'avait eu de cesse de dire qu'il partirait si Zoubi partait. Il est resté, c'est bien. Mais aujourd'hui, la pression, elle est sur lui, elle est sur les joueurs. Moi, je ne les vois pas faire une saison où ils vont bousculer la hiérarchie. Alors, dans le football français, oui, dans le football français, ils peuvent être aussi bons qu'ils l'ont été cette année et réussir un aussi bon classement. Mais est-ce que, véritablement, ça suffit de finir à je ne sais pas combien de points du Paris Saint-Germain, alors qu'il reste 10 matchs à jouer?
Mais est-ce que la priorité, justement, capitaine, c'est pas de se qualifier régulièrement?
Mais de se qualifier, pourquoi faire
En Ligue des Champions. Ça voudra dire que.
Est-ce que la dernière fois, ils n'ont pas fait.
Oui, mais ça montrera une forme de régularité, de participer peut-être 2 années sur 3 à la Ligue des Champions, de montrer qu'ils sont en haut du classement de la Ligue 1. Et puis après, en attendant, j'ai quelques bons jeunes du centre de formation, le président ou l'actionnaire qui va se décider à mettre un peu d'argent. Et puis, ils pourront se lâcher. Mais il faut que l'OM reste en haut du classement de la Ligue 1 et se qualifie régulièrement en Ligue des Champions. Après, Ligue des Champions, à mon avis, moi, c'est secondaire.
Malheureusement. C'est bien la dernière fois qu'ils ont fait, c'est bien la dernière fois qu'ils ont fait pas loin de 0 points en Ligue des Champions.
Ouais, je crois que c'était zéro.
Exactement.
Et ça, moralement, psychologiquement, c'est bien, Jérôme. Voilà.
Alors, Jérôme, comment tu vois les choses?
Quel génie. Non, mais c'est là quand tu vois, c'est la classe. La phrase qui.
Ah ouais. C'est le sniper. Voilà, c'est tout.
Oui, mais il est bon. Et c'est fou qu'il va être remplaçant l'année prochaine. C'est fou. Allez, comment on peut se passer d'un talent pareil? C'est fou.
Mais on s'en passe pas.
Mais je pense que. Je pense qu'ils s'en rendent compte depuis qu'ils ont pris la décision, ils s'en rendent compte du gâteau.
Ah ouais,
moi je m'en mords les doigts. Ils se disent merde. Hein. Non, pas du tout. Mais je suis d'accord avec Duga sur le fait que déjà briller sur la scène européenne. Bien sûr, tous les clubs ont envie de briller quand ils font la Coupe d'Europe. Mais l'essentiel de l'Olympique de Marseille, c'est quand même de se stabiliser en championnat, de confirmer leur très bonne année dernière, de rester dans les 3 meilleures des équipes du championnat de France. Après, je pense qu'avec cet effectif là aujourd'hui,
c'est la coupe UEFA. C'est-à-dire sur la Ligue des Champions, il faut qu'il fasse quelques bons matchs, il faut accrocher la 3e place et se battre en UEFA pour faire un parcours sympa. Exactement. Voilà, ça doit être ça l'objectif de l'OM, pas plus, faut pas rêver.
Bah ouais, tu peux pas. C'est vrai que tu peux pas l'annoncer comme ça au départ parce que tu restes compétiteur. Tu commences la Ligue des Champions, même si le tirage peut être très très difficile. T'as envie de contrarier les grosses cylindrées et peut-être d'être la bonne surprise. Mais en effet, si tu finis 3e de ce groupe en Ligue des Champions, tu seras qualifié en Europa League. Avec un petit peu de chance, il y aura une bonne campagne européenne. Ça a été le cas il y a 2 ans. Alors pourquoi pas la rééditer, même si c'est pas facile d'aller jusqu'en finale. Mais l'essentiel, c'est d'avoir de la stabilité dans les résultats en championnat. Et avec cet effectif-là, sans recrues, sans perdre 2-3 joueurs importants.
Ils vont perdre des joueurs.
Bah, je pense pas, même, Jean-Michel. Moi, je pense pas.
Même si le fair play financier semble s'assouplir, d'après ce que j'ai pu lire et entendre, je crois quand même qu'ils sont sur des charbons ardents là, c'est compliqué, non? Ils sont pas obligés de vendre, Mohamed?
En fait, tu veux qu'ils vendent
Ils étaient censés obliger
Xabi et Iniesta.
Ils étaient censés vendre jusqu'au 30 juin. La limite, c'était le 30 juin fixé et 60 millions d'euros de vente. Ensuite, il y a eu le Covid-19. Le mercato international n'est pas ouvert. Donc ça, l'UEFA va aussi le prendre en ligne de compte. Et en tout cas, ce qu'on répète au sein de l'Olympique de Marseille, c'est que l'inquiétude, elle portait sur la saison prochaine. Si l'OM était amené à se qualifier encore une fois en Champions League, là, il y avait plutôt de l'optimisme sur cette saison. On attend la décision de l'UEFA la semaine prochaine, jusque 15-20 jours. Elle devrait tomber la première semaine de juillet, cette décision. On est plutôt optimiste du côté de l'Olympique de Marseille, Jean-Michel.
On va donner la parole à Loïc, qui attend au 32-16, qui est supporter marseillais. Salut Loïc, bienvenue dans Team Duga.
Bonsoir. Salut, Loïc. Monsieur.
Bienvenue poulet. Dis-moi Loïc, comment tu vois, est-ce que tu es optimiste, est-ce que tu as peur, ou tu attends quoi de cette saison prochaine?
Non, on ne peut pas dire que les supporters, on a peur. Je pense que la saison va se dérouler en deux phases. On va débuter le championnat avec une équipe. Et je pense qu'au 31 août ou à la clôture du mercato, on aura certainement une deuxième équipe parce que financièrement, on va être dans l'obligation de vendre.
Ah, pardon de te couper, Loïc, mais la fin du mercato, elle est beaucoup plus tard cette année.
C'est décalé d'un mois, donc c'est ça.
Hein. Non, mais il y aura peut-être même une prolongation, il y aura peut-être même une deuxième séquence du mercato d'été qui pourrait avoir lieu mi-novembre. C'est des réflexions qui sont menées par l'UFA.
D'accord, donc ça s'annonce encore plus compliqué déjà pour l'entraîneur, pour avoir une lisibilité 11 à peu près type. Après, l'année dernière, on a fait une très belle saison, sans avoir un jeu toujours flamboyant, mais en tout cas efficace. L'année prochaine, ça va être plus compliqué avec les matchs de Ligue des Champions en semaine. Il faudra jouer avec du cœur, avec des idées, et surtout donner une bonne impression, se battre. Il n'y a pas de raison que tu sois malentendu, tu accroches un gros, quoi.
Quels sont les postes pour toi qu'il faut éventuellement doubler pour essayer d'être le plus performant possible sur les deux tableaux pour toi?
Il faut absolument un latéral gauche. La question de l'avenir d'un grand attaquant. Si par exemple il signe Niang, c'est quand même un profil de pivot. C'est un joueur qui a du gabarit, qui est imposant.
Ouais, il est intéressant, ouais.
Donc tu peux pas jouer en 4-3-3 et avec Benedetto dans ce 4-3-3. Ça veut dire forcément que Benedetto ira sur le banc et que Germain ira voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Toujours quid de Payet à gauche. Moi, je suis vraiment pas fan à gauche parce qu'il défend pas. On sait qu'il est meilleur dans l'axe et à faire le jeu ou faire jouer les autres. Quid aussi de Thauvin quand il va revenir, à mon avis, il va revenir avec lancé comme un frelon, hein. Comme dit Vincent, il y a l'Euro qui va suivre et qui va arriver. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont se mettre au niveau. Les Rongier, les Sanson, les Thauvin, les Camara, ils vont vouloir, tu vois, apporter du volume et jouer avec leur cœur. Alors j'espère vraiment qu'ils vont pas se tromper de combat.
La recrue, ça peut être Thauvin aussi. Thauvin, il n'a pas joué de la saison. Thauvin, ça peut être aussi une recrue pour l'OM.
Capitaine, toi, tu ferais beaucoup de retouches pour prolonger la question de Dugas à Loïc à l'instant.
Non, mais là, le problème, ce n'est pas faire beaucoup de retouches ou peu de retouches. Le problème à l'Olympique de Marseille, c'est que leur marge de manœuvre, elle est égale à zéro. C'est pas une question de retouche. Là, j'ai vu qu'ils étaient heureux, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, surtout pour les jeunes, qu'ils avaient fait signer 4 ou 5 jeunes pros.
Des talents, des pépites vraiment. Soirée, Bertelli.
Arrête, Mohamed. Ne commence pas à parler de pépites alors qu'ils ont pas fait un match en pro.
Jean-Michel, Jean-Michel,
tu vas leur tourner la tête. Ils vont avoir les pieds carrés.
C'est la nouvelle génération.
Jean-Michel,
laisse-moi juste dire que c'est des joueurs qui avaient des propositions à l'étranger. Donc à un moment, s'ils restent à l'OM, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est tout. C'est ce que je te dis, Jean-Michel. C'est juste une bonne nouvelle. On préfère ça à Kouassi. C'est tout.
Non, mais écoute, je t'ai dit que c'était bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, Mohamed? Toi, tu m'ajoutes que c'est des pépites. Ils ont 19 ans.
Si c'est des pépites,
il faut qu'ils jouent en pro. Mais s'ils jouent à 18 ans, ils marquent 50 buts.
Quand on regardait l'ORTF, toi, t'étais une pépite pour les journalistes de l'ORTF.
Mais je m'en fous de moi. Je parle des jeunes qui ont signé. Les jeunes qui ont signé, ils n'ont pas fait un match en pro.
Je retire le mot pépite. Capitaine.
On est désolé.
Il a eu juste capitaine.
On va dire un joueur à fort potentiel.
Futur ballon d'or.
C'est ça qui monte en puissance.
Oui, exactement. Futur ballon d'or.
Putain. Ouais. Jean-Louis, l'émission de demain, elle est morte. Il a tout donné ce soir.
Il a tout donné.
Il est mort, il est cramé.
Non, il est fort, il arrive à enchaîner. C'est ça qui est impressionnant.
Tisane et au lit.
C'est l'époque du tilleul maintenant. C'est bon, là, c'est la grande époque du tilleul.
Ah ouais. Très bien. Alors, Loïc, merci beaucoup d'être venu au 32-16.
T'as bien fait de venir, Loïc.
À très bientôt, Loïc. Tu reviens quand tu veux pour parler.
Et Mohamed aussi, t'as bien fait de venir, Mohamed. Vraiment.
Bravo pour cette intervention.
Pardon, Mohamed, mais c'est sorti du fond du cœur.
Quelle fulgurance. C'est génial.
Quelle pépite, ce Mohamed.
Oui.
Ah, bah, c'est lui, c'est une pépite. Oui, c'est sûr. Il a prouvé, il a confirmé au niveau, etc. Oh. Merci Mohamed.
Merci messieurs. Merci Capitaine.
De rien.
Voilà donc pour ce débat autour d'Mbaye Niang. On revient dans une seconde avec le journal moyen.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Tim Duga.
Grand moment d'histoire à venir après les infos de 19h. France RFA 82, demi-finale de Coupe du Monde. Dramatique pour les Français de Michel Platini. Tout sur cette rencontre dans un instant. Tout de suite, c'est le journal moyen.
À la une du journal moyen de Tim Duga aujourd'hui sur RMC. Manu Petit nous fera un petit coucou avec une petite nouveauté inédite pour nous, pour le journal moyen. Adil Rami nous parle musique. Et puis, le retour vers le futur, j'aime bien ça, comme le France 82. Aujourd'hui, le jour où le petit cœur d'Éric Dimeco a pleuré, saigné. Il était triste, le petit Cruyff. Après, vous écoutez RMC.
Non, c'est pas ressorti ça.
Non, pas ça, Éric. Ne t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. C'est le 338e journal moyen de l'histoire de Tim Duga et pas du sport.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Tim Duga.
Adrien Aigouin.
J'ai un nouveau Manu, rapide. Manu Petit, hier sur RMC, nous parle des scouts du Paris Saint-Germain, les membres du club qui observent les joueurs dans les autres clubs chez les jeunes.
Les scouts du Paris Saint-Germain, pour me dire, le PSG va absolument que tu signes dans l'académie. Dans ma tête, je me dis, ouais, mais combien de joueurs issus de l'académie ont pu faire leur trou au soleil au sein de l'équipe 1?
Le fameux trou au soleil, bien connu. Merci.
C'est Manu. Le trou au soleil. La, 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 la.
Sans transition, on reste en musique, c'est l'instant d'Idrami.
Moi, c'est pareil. C'est-à-dire
que t'es pas content de me voir.
J'adore, tu fais le show.
Ah, je suis ton clown alors.
Adil Rami, le copain de Tim Duga, copain d'RMC, a publié une vidéo sur Instagram. Vidéo dans sa voiture, dans laquelle il écoute de la musique. Et moi, avant de déclencher le son, je me suis dit, comme beaucoup de joueurs de foot, il doit écouter DJ Snake. Peut-être Us l'enfoiré. Je sais que Jean-Louis, tu es fan, toi. Ou bien Us l'enfoiré. Ou bien Gradure. Ça, c'est le chanteur préféré de Duga.
Ouais.
Mais non.
Ils reviennent au blind test, hein, ces gens-là.
Mais oui, Us l'enfoiré. Il était candidat à la chanson de l'année chez Nikos Aliagas. Écoutez, surprise, Adil est avec donc un copain à lui dans la voiture et il écoute ça. Il est à fond.
Johnny.
Et oui, Adil Rami dans sa voiture. Écoute, du Johnny Hallyday, puisqu'hier, Johnny aurait fêté ses 77 ans. Adil assume totalement.
Hey, je te jure, moi, j'aime trop écouter du Johnny. J'écoute de tout, mais tout. Commencez pas à me dire, ouais, mais c'est quoi ce son que t'écoutes?
Voilà.
Tu dis des bêtises.
Il assume.
Écoute tes paroles. Écoute les chansons qu'il fait, le rock'n'roll là, qui vient en toi, ou allumer le feu, là, t'as envie de tout péter. C'était pas toi tout ça, putain.
Il est en forme, il écoute du Johnny, voilà, il rend
quand
hommage
à Johnny. Il écoutera Osiris dans la voiture là. Oh là là, quelle folie ce sera.
Il se met même, il n'y a pas que le rock chez Johnny, il y a du blues, et il aime le blues, Adil, dans sa voiture. Il chante.
Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues.
Adil Rami. Pour Adil Rami, il annonce la couleur carrément. Hier, c'était une journée Johnny.
Ah ouais, aujourd'hui, ça va être du Johnny, Johnny, Johnny. Aujourd'hui, c'est Johnny. Ça me chauffe. Je laisse le blues rentrer en moi, le rock'n'roll. T'as compris ?
Eh oui, on a compris.
Point, barre, c'est tout.
Et voilà, c'est reparti. Il poursuit son chemin.
C'est
d'ailleurs,
bien, il faut tout écouter,
oui,
dans la vie.
Et puis, il s'éclate. Et puis, il révèle, je sais pas si vous l'a dit dans cette même vidéo, qu'il va sortir un livre, Adil Rami, sur lui, sur sa vie. Et il annonce dans la vidéo, il dit c'est sans filtre. Donc, à surveiller, peut-être l'occasion de nous recevoir prochainement.
Bien sûr, il est toujours le bienvenu.
Bah oui. Sans transition, elle nous manque. Ah oui, la Ligue des Champions nous manque. Elle manque aux joueurs. C'est plutôt rassurant, du gars. Je t'entends souvent dire les joueurs s'intéressent plus vraiment au foot. Il y en a un qui est en manque de foot, Lucas Moura, le Brésilien de Tottenham. Lucas a publié une vidéo sur Instagram. Alors dans cette vidéo, on le voit vivre au quotidien avec un ballon. Donc il a mis cette musique là. Et dans cette vidéo, on le voit avec ce ballon. Il lave les dents du ballon. Quand il est à table, il fait le manger le ballon à côté de lui. Quand il joue aux cartes, il joue aux cartes avec ce ballon de foot. Il dort avec ce ballon. Est-ce que tu as une idée d'où vient ce ballon du gâteau, Eric? Je sais que tu sais.
Oui. Non.
C'est le ballon du match. D'un match qui a eu lieu le 8 mai 2019.
Oui, il le sait, Duga. Il avait pronostiqué.
Oui, ah oui. Duga, tu avais annoncé son triplé à Lucas. Demi-finale retour de la Ligue des Champions. Ajax Amsterdam Tottenham. 3-2 pour les Anglais qualifiés. Et donc triplé hat-trick de Lucas qui a gardé le ballon. Qui vit donc avec le ballon. Qui était très attaché à lui. Et je voulais revenir sur ce match. C'est une histoire qui a blessé un membre de la Dream Team.
puisqu'il y a un an, celui qui petit garçon au club de Robion était surnommé le petit Cruyff, s'est pris d'amour pour cette jeune équipe de l'Ajax. Vous vous souvenez, il y a un an?
Quelle histoire d'amour incroyable.
Ajax par-ci, l'Ajax par-là, regardez, ils sont tout jeunes, ils sont énormes. Lors du quart de finale, il se qualifie, je crois, à la Juve, Eric, c'est ça. Hein. Eric est en larmes. Il nous offre sa tirade historique, Eric Dimeco, sur RMC Sport.
Puis c'est plus des gamins maintenant. Hein. Mais... ce sont des messieurs,
des jeunes adultes.
Ah non, des messieurs. Bravo messieurs. Vous êtes des hommes, des grands hommes. Oh,
qu'est-ce que c'est nul.
Des grands hommes. Un an après, ça
c'est
fait
gênant.
Mal.
Ah
ouais, c'est très
gênant.
Autant il y a un sorti an, ça du
contexte,
ouais.
Sorti du contexte, c'est quand même gênant en effet.
Ouais. Même en vrai, c'était gênant aussi. Hein, t'inquiète.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais. Et donc, ouais, bon, après, l'Éric vivait son rêve de petit garçon. Le petit Cruyff était heureux. Il pensait à sa jeunesse.
C'est surtout qu'il nous régalait. Tu rigoles.
Mais lors de la demi-finale, sur le troisième but de Lucas, qui élimine l'Ajax, c'est sans montage. Écoutez. La détresse du petit Cruyff sur le but de Lucas.
Il faut arrêter là, je suis vieux moi, je peux y laisser mon cœur moi sur un truc comme ça là.
Les dernières secondes, le ballon de Sissoko vers Llorente, c'est maintenant ou jamais. Tottenham, Dele Alli vers Lucas.
Non, c'est pas possible. C'est pas vrai ce qu'il a fait Lucas.
Ils ont plus de mon rêve.
Qui les envoie en finale.
Là, ça c'est génial.
C'est le cœur qui parlait, Eric. Le nom qui sort au début, c'est ton équipe qui est sortie là, c'est l'Ajax qui est sortie.
Ouais, mais après, je reviens vite sur le but de Lucas parce que même, il fait tripler, il les amène en finale. Mais sur le coup, je suis placé dans l'axe, je vois le ballon partir avant qu'il rentre dans les filets, j'y crois pas quoi. J'y crois pas parce que c'est tellement cruel pour
moi. Tu n'y crois pas, mais tu le sens venir dans les minutes qui précèdent, tu dis ça sent mauvais, Jérôme, ça sent mauvais. C'était l'histoire du petit Cruyff de Robion.
T'as la gote de cette finale, Ajax. Ajax Liverpool comme elle aurait été belle.
Au lieu de ça, on s'est bien.
On s'est fait match de première ligue comme on en fait.
Un mauvais match de première ligue en plus. Hein, c'était pas dingue. Voilà pour ce journal moyen. Restez avec nous. Gros morceau de l'histoire du foot français juste après les infos de 19h. France RFA 82, la terrible désillusion de Séville, vue des années après, des dizaines d'années après par Tim Dugas. C'était cette semaine.
RMC 18h-20h, le meilleur de Tim Dugas.